Morgan. Hardigan présente L'Aigle et les Loups, Les Aigles de l'Empire, tome 4, de Simon Scarrow, traduit de l'anglais Grande-Bretagne par Benoît Domis, lu par François Montagu. Chapitre 1er. Halte ! Cria le légat, levant brusquement le bras. L'escorte de cavaliers ralentit derrière lui, et Vespasien tendit l'oreille pour entendre le son qu'il avait perçu un moment plus tôt. En l'absence du bruit des pas lourds des sabots sur la surface irrégulière du chemin, lui parvint la sonnerie étouffée de corps de guerre bretons en direction de Caléva. La ville, qui s'étendait à quelques kilomètres de distance, était la capitale des Atrébates, l'une des rares tribus alliées à Rome. L'espace d'un instant, le légat se demanda si le commandant ennemi, Caratacos, avait eu l'audace de frapper aussi loin à l'arrière des forces romaines. Si Caléva était attaqué...
En avant !
Penché bas sur son cheval, Vespasien le talonna dans la montée. Son escorte, une douzaine d'éclaireurs de la 2e Légion, avança à pas lourds derrière lui. Protéger leur chef relevait de leur devoir sacré. Le chemin s'élevait en diagonale sur le versant escarpé d'une longue crête, au-delà de laquelle il descendait vers Caléva. La ville servait de dépôt d'approvisionnement pour la 2e Légion. Détachée de l'armée du général Aulus Plautius, la 2e Légion avait reçu l'ordre de vaincre les Durotriges, la dernière tribu du sud qui se battait encore aux côtés de Caratacos. Seule leur destruction assurerait aux voies de ravitaillement une sécurité suffisante pour envisager une avancée des légions vers le nord et l'ouest. Sans cela, Plautius ne pouvait espérer remporter la victoire. Et l'empereur, coupable d'avoir fêté un peu tôt la victoire de Lille, s'exposait à voir étaler au grand jour à Rome le vide de cette imposture. Le sort du général Plautius et de son armée, le sort de l'empereur lui-même en fait, dépendait des fines artères tendues qui alimentaient les légions et pouvaient être coupées d'un seul coup. Des colonnes régulières de lourds chariots partaient du vaste camp de base établi dans l'estuaire de la Tamésis, le fleuve qui serpentait dans le cœur de la Bretagne, où des vivres et du matériel débarquaient depuis la Gaule. Ces 10 derniers jours, la 2e Légion n'avait reçu aucun approvisionnement. Vespasien avait laissé ses troupes, qui assiégeaient l'une des plus importantes collines fortifiées des Durotriges, pour retourner de toute urgence à Caléva et voir quel était le problème. La 2e Légion avait déjà réduit ses rations, et de petits groupes ennemis attendaient en embuscade dans les forêts alentour pour attaquer tout détachement qui s'éloignerait un peu trop du corps principal de la Légion en quête de nourriture. À moins que Vespasien ne trouve rapidement des vivres pour ses hommes, la 2e Légion devrait bientôt se replier sur le dépôt de Caléva. Il imaginait sans peine la colère avec laquelle le général Plautius accueillerait la nouvelle d'un tel revers. Nommé par l'empereur Claude, Aulus Plautius commandait l'armée dont la mission consistait à ajouter la Bretagne à l'Empire. En dépit des victoires remportées l'été dernier sur les tribus barbares, Caratacos avait levé des troupes fraîches et continuait de défier Rome. Il avait beaucoup appris depuis l'année précédente et refusait dorénavant de se mesurer directement aux légions, préférant s'attaquer au ravitaillement de la pesante machine de guerre romaine. À chaque kilomètre de l'avancée du général Plautius et de son armée, ses voies vitales devenaient plus vulnérables. Soit le général Plautius réussirait à entraîner l'ennemi sur le champ de bataille et les légions gagneraient, soit les Bretons parviendraient à éviter l'affrontement et à affamer les Romains, contraignant le général à entamer une périlleuse retraite jusqu'à la côte. L'issue de la campagne de cette année dépendait du succès d'une des deux stratégies. Alors que Vespasien et son escorte galopaient vers le sommet, les sonneries des corps devinrent plus stridentes. À présent, les soldats entendaient des cris, l'entrechoquement métallique